don't understand what's going on here.
Kesako. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui il est question de parler de grosses barques et de grandes voiles. Je vous emmène à bord du Kesako pour la folle épopée du bateau. Par définition, un bateau est un moyen de transport capable de flotter sur l'eau et de s'y déplacer. Et ça, l'humain l'avait bien compris depuis bien longtemps. L'embarcation la plus ancienne retrouvée à ce jour date du Mésolithique, soit environ 6000 avant notre ère. Il s'agit d'une pirogue ou d'une barque, pour que ce soit plus simple, construite dans une unique pièce de bois taillée dans un tronc d'arbre. On retrouvera aussi dans d'autres zones géographiques des types d'embarcations distinctes, utilisant des matériaux ou des techniques nouvelles, comme l'usage de fibres végétales pour ce qui fait la base de l'embarcation, ou encore, un peu plus récemment, vers 5000 avant notre ère quand même, la création de la voile avec soit une toile de fibres végétales tressées ou soit avec une peau de bête. À cette époque-là, son usage est principalement pour la chasse ou pour la pêche. Le bateau se métamorphose à partir de 600 avant notre ère, grâce aux technologies des Égyptiens et des Grecs, qui réussissent à concevoir des bateaux plus grands et plus longs, utilisant des nouvelles techniques de bordage, avec ici le bordage à clin. Donc le bordage, aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de planches qui recouvrent la charpente de base du bateau pour former la coque, voilà. Ou encore utilisant de grandes voiles carrées. C'était aussi le début du commerce maritime lancé par les Grecs dans le bassin méditerranéen. Jusqu'à la période de la Renaissance, le bateau, et plus largement la technologie de la navigation, se base encore sur les techniques d'antan et ne subira pas de grandes améliorations, du moins seules quelques civilisations y en apporteront, à l'image des Vikings avec leur célèbre Knorr, j'espère que ça se prononce comme ça. Non, il faut attendre le 15e siècle pour voir de nouvelles architectures de coques avec le développement des caracs et des caravelles lors des grandes découvertes dès 1492 avec Christophe Colomb. Ces galions sont préparés principalement pour la guerre et le commerce. Ils sont caractérisés par leurs grands mâts et leurs grandes voiles et par cette coque très imposante utilisant la technique du bordage à franc-bord. Et si les planches sont juxtaposées les unes sur les autres, en comportant aussi des superstructures à la proue et à la poupe, donc à l'avant et à l'arrière. Durant plusieurs siècles, le bateau ne subit pas de réelles modifications. Il sera toujours amélioré, mais bon, sans rien de plus. Cependant, cela changera au XIXe siècle lors de la première révolution industrielle en 1840, où le développement de la mécanique et de la métallurgie vient de nouveau le métamorphoser. La coque est maintenant soit en bois, soit en métal, à voile ou à moteur à vapeur dans un premier temps, puis plus tard à combustion. Son usage est maintenant aussi bien diversifié, que ce soit pour la pêche, un chalutier, un bateau-usine, etc., pour le commerce avec les cargos, les porte-conteneurs, etc., pour la guerre avec les frégates, les porte-avions, pour le loisir avec les yachts, les voiliers, pour l'exploration, bon là je n'ai pas d'exemple à vous donner, pour les sauvetages, et ainsi de suite. Parmi les bateaux de loisir, on retrouve aussi les paquebots, qui font très débat aujourd'hui d'ailleurs, avec le très connu Titanic, ou encore avec des moins connus comme le France, paquebot français qui faisait la fierté nationale dans les années 60.
3 février 1962, France a quitté le Havre pour sa première traversée vers New York. Gagnant la haute mer, le navire long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes atteint rapidement sa vitesse de croisière. Si certains passagers apprécient malgré le vent le soleil des ponts promenades, les autres préfèrent à l'abri des ponts couverts, entourés des attentions du personnel, se livrer au confort des chaises longues ou aux joies du footing. Sur la passerelle, le commandant a donné l'ordre à la machine d'allumer les 8 chaudières spécialement étudiées pour une consommation minimum de mazout. Elles vont transmettre au turbo-alternateur la puissance nécessaire pour développer 160 000 chevaux et atteindre une vitesse de 35 nœuds.
Aujourd'hui, qui dit bateau dit aussi sport nautique. On retrouve plusieurs types de compétitions, mais la plus connue reste la course au large, avec plusieurs courses organisées chaque année. La plus ancienne organisée est la Transat anglaise dans les années 60. Aujourd'hui, on retrouve d'autres compétitions connues internationalement, comme le Vendée Globe depuis 1989 ou encore la Route du Rhum depuis 1978. Ces courses consistent principalement à effectuer soit un tour du monde, soit une traversée d'un océan, le plus souvent en solitaire, pendant de nombreux jours. Cependant, qui dit solitaire, dit aussi naufrage et disparition, à l'image du skipper Alain Colas, disparu en 1978 lors d'une des éditions de la Route du Rhum à bord de son bateau, le Manureva.
Messieurs, bonsoir. Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas, qui n'est toujours pas arrivé à Pointe-à-Pitre, mais cette fois, disons-le, on a vraiment peur pour lui. Le brigand atlantique de la Marine nationale est revenu bredouille de sa mission la nuit dernière. Joël Charpentier, le Trégastellois, qui est arrivé cinquième hier et qui avait une journée de retard sur Colas lors du dernier pointage il y a deux semaines, a confronté son journal de bord avec celui de Michel Manidowski. Lui aussi avait un peu de retard sur Colas et ils avaient choisi la même route. Eh bien, une certitude, il est arrivé quelque chose et peut-être quelque chose de grave. Tous les radioamateurs sont d'ailleurs mobilisés depuis quelques heures pour essayer de retrouver le navigateur, en tout cas pour essayer de percevoir la moindre tentative de liaison radio.
Les naufrages sont une partie inhérente de l'histoire de la navigation. Certains sont plus marquants que d'autres, comme par exemple celui du Titanic en 1912 dans l'océan Arctique, ou encore plus récemment celui du pétrolier Erikin en 1999 au large des côtes bretonnes et responsable d'une des plus grandes marées noires qu'ait connue la France.
Cassé en deux, mais pas tout à fait coulé. L'arrière du bateau, avec ses superstructures, surnage ainsi depuis ce matin. Quant à la partie avant du pétrolier, elle est pratiquement totalement immergée. Seule la proue pointe encore dans une mer agitée de creux de 6 mètres. Lorsque les premiers secours, des hélicoptères français mais aussi britanniques, survolent la zone du naufrage, une partie de l'équipage est toujours à bord. Ils seront rapidement élitreillés. Les autres ont embarqué dans cette chaloupe de sauvetage. Et en dépit d'un vent de force 8, les marins rescapés du pétrolier seront tous hissés sains et saufs à bord des hélicoptères.
L'équilibre d'un bateau peut être assuré de différentes façons, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est celle du bateau hydrostatique dit archimédien. Dans ce cas précis, le poids de la coque est compensé par la poussée d'Archimède, c'est-à-dire que tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale vers le haut, égale au poids du volume du liquide déplacé. C'est le cas de toute la majorité des bateaux en soi, la plupart fonctionnent comme ça. La forme du bateau influe beaucoup sur sa flottabilité. Ensuite, pour se déplacer, soit il y a une voile dirigée par un gouvernail qui va gonfler avec le vent et qui va faire avancer le bateau, ou soit il y a un moteur à hélice qui va propulser le bateau vers l'avant. Et donc, pour finir cette chronique, je vous laisse sur le mythique cargo d'Axel Bauer et je vous dis à la semaine prochaine.